Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées. C'est Sébastien Arbogast qui vous parle et aujourd'hui je suis de retour avec Plume. Bonjour Plume.
Salut Sébastien.
Alors, aujourd'hui, on a un programme assez chargé, puisque, bon, déjà, on va commencer, comme à chaque fois maintenant que Plume nous rejoint avec son édito à lui. Et puis ensuite, on va répondre à une question d'un de nos auditeurs qui nous a posé sa question sur le blog directement en commentaire du dernier épisode. On va parler un petit peu de Distributed Proof of Stake. Ensuite, on passera un petit peu en revue les actualités et on finira avec les promotions des membres de l'équipe et puis de la communauté dans son ensemble. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez filer un coup de main au Proof of Stake et nous aider à répandre la bonne nouvelle, je vous invite gaiement à laisser un commentaire sur le blog bien sûr, mais aussi sur les plateformes de podcast que sont iTunes, TuneIn et autres podcast addicts et différentes applications. Ça nous aide beaucoup et voilà, ça nous permet de d'avoir toujours plus d'auditeurs et donc de d'amener à nous rejoindre tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la blockchain et à la décentralisation. Donc n'hésitez pas à le faire, faites-le d'ailleurs, voilà, allez-y, lâchez-vous, dites-nous ce que vous en pensez. Et bien sûr, il y a aussi toutes les plateformes sociales, Twitter, Facebook et autres plateformes décentralisées, puisque nous sommes aussi sur Mastodon et sur Peepeth aussi.
Ouais. Et nous sommes Proof of Cast et pas Proof of Stake, comme tu l'as dit, malheureusement. Mais on se comprend, on se comprend.
Voilà. Commençons d'ailleurs directement avec l'édito de Plume. Tiens, puisque tu as quelques remarques à nous partager, quelques opinions.
Alors, mes chers crypto-auditeurs de tout sexe et de tout genre, bienvenue dans Proof of Cast, le podcast de la crypto. Voici revenue la saison du soleil, des moustiques, des barbecues bruyants et olfactifs de vos sympathiques voisins. Il y a à peine quelques années, vous vous seriez réjouis de cette odeur de saucisse aspergée de rosée en cubi. Mais aujourd'hui, non, c'est fini, vous êtes dans la crypto-monnaie, dans les crypto-monnaies. Car qui dit barbecue dit chaleur. Chaleur qui fait baisser drastiquement les performances des mineurs que vous avez installés dans la cave de vos parents, leur faisant croire que vous récupériez des ordinateurs recyclés pour une organisation humanitaire du Botswana et que la hausse de la facture d'électricité était due à des taxes imposées par les députés écologistes sous prétexte de sauver les bébés phoques à coups de panneaux solaires subsidiés, mais néanmoins surtaxés. Y a pas à dire, il nous faudrait un Elon Musk wallon au Parlement, car c'est un véritable scandale. Mais je m'égare. Les barbecues, c'est surtout devenu une occasion d'avoir des contacts sociaux. Or, tous les fans des crypto-monnaies le savent, les contacts sociaux, c'est quand même complètement inutile, alors qu'on pourrait passer notre soirée sur TradingView à guetter si le token de cette ICO ouzbek dans laquelle vous avez investi vos étrennes va vous rendre millionnaire, du moins partiellement, genre 0,01% de millionnaire. Mais le pire avec les contacts sociaux, c'est que vous finissez toujours par tomber sur le voisin Gérard, celui qui va vous demander dans quel coin investir. Après lui avoir répondu d'être prudent, de n'investir que ce qu'il pouvait perdre et de s'en cantonner au départ surtout à Bitcoin et Ethereum, il vous répondra invariablement « Ouais non, hey, 7000 euros c'est quand même bien trop cher, le Ripple lui il est qu'à 1 ou 2 euros ». Bon, là, vous prenez une grande inspiration, vous toussez un peu à cause de la fumée des barbecues, vous buvez une grosse gorgée de sangria et vous ne savez même pas par où commencer. Peut-être par le fait qu'il y a 100 milliards de Ripple et qu'il n'y aura jamais qu'un maximum de 21 millions de bitcoins en circulation. Certainement moins, vu que beaucoup ont été perdus ou sont bloqués. Du coup, avec un nombre estimé de 35 millions de millionnaires dans le monde, si chaque millionnaire voulait acheter du bitcoin, il ne pourrait même pas acheter un demi. contrairement au Ripple. La sangria aidant, vous vous imaginez dans une réalité alternative où, en 2012, le logiciel Bitcoin aurait déplacé sa virgule de 3-0. Cela d'ailleurs aurait bien pu se produire. Un sondage sur le forum Bitcoin Talk l'avait même suggéré, auquel votre serviteur avait voté. Si cela avait été le cas, imaginez une seconde, le Bitcoin vaudrait aujourd'hui 7 euros au lieu de 7000 euros. Mais certainement qu'il n'aurait du coup pas fait les titres des journaux. Après tout, on s'en fout d'un truc qui vaut 10 euros. Un truc qui en vaut 10 000 par contre. Et peu importe le truc en question. Si c'est cher, faut en parler. Les gens auraient, certains auraient investi, mais d'autres pas, n'auraient pas été au courant. Les bulles auraient été très différentes. Et tout ça pour une simple virgule dans un code informatique qui ne change concrètement rien. Cela illustre l'irrationalité totale des humains comme votre voisin, prêt à acheter du Ripple, prêt à payer 3 fois plus cher un t-shirt fabriqué par des Thaïlandais aveugles de 6 ans et demi sous seul prétexte qu'il y a imprimé dessus le nom d'une marque qui se targue d'être pour les plus beaux à grands coups de spots publicitaires et de sponsoring de type en short qui gagne des millions juste pour taper dans un ballon, pendant que nous crions « Vive le sport !» en nous gavant de diabète en bouteille et en sachet. Mais je m'égare. Car, chers cryptos auditeurs, vous le savez, vous qui avez écouté l'épisode 1 avec attention, clin d'œil, hein, la valeur du Bitcoin provient du fait qu'il s'agit d'un système pour parvenir à un consensus de manière complètement décentralisée, sans devoir faire confiance à personne d'autre qu'au code qui est open source. Alors, il y a de quoi être en rogne lorsqu'on entend parler de Ripple, dont le consensus dépend d'un Trusted Network of Validators, donc de quelques nœuds qu'on appelle les validators. Ces quelques nœuds sont nommés par une autorité centralisée. Et quand on sait que la moitié des 100 milliards de Ripple les 100 milliards ont d'ailleurs été émis dès le départ et la moitié ont été directement placés dans la poche des fondateurs. Non mais sérieusement, autant acheter directement des euros sur PayPal. Bon, c'est vrai, le cours est un peu moins volatile. Et c'est là qu'arrive votre autre voisine, Mireille, qui elle ne se contente pas des torche-cul financés par nos impôts. Bon, je sais, c'est vulgaire torche-cul, mais quand on y pense, des feuilles de chou dans lesquelles on trouve des informations sur la couleur des chaussettes d'un type devenu chef d'un pays à cause de sa généalogie ou des contre-vérités hallucinantes écrites par des journalistes qui sont soit complètement incompétents, soit qui n'ont absolument pas le temps de l'être, le tout imprimé entre 2 publicités pour une promo sur les choux de Bruxelles dans les supermarchés de votre région ou sur le site web éponyme designé en 2002 par la nièce du président du conseil d'administration et bourré de trackers Google Analytics ou Facebook, le tout bien entendu financé par vos impôts, c'est un véritable scandale et ça mérite le nom de torche-cul, mais ok, d'accord. Je m'égare. Bref, lorsque Mireille arrive, elle a écumé les forums, les comptes Twitter et autres Slack, et elle lance d'un ton assuré « De toute façon, la blockchain, c'est mort. Moi, j'investis tout dans IOTA. » Comment dire ? D'un côté, Mireille a raison, car on peut accorder le bénéfice du doute au projet IOTA. Il semble honnêtement vouloir construire le projet plutôt que de s'enrichir sans trop réfléchir comme l'ont fait les fondateurs de Ripple. Mais il y a quand même beaucoup de suites. Car IOTA, c'est avant tout une équipe qui a décidé de tout réinventer dans leur laboratoire fermé, de réinventer plus de 60 ans de sciences informatiques et électroniques. Vous savez que vos ordinateurs, téléphones, montres, radio réveil et micro-ondes traitent du code binaire. En gros, tout est séparé en 1 et en 0. Et ben, le projet IOTA, lui, est optimisé pour tourner sur des machines ternaire. Des 0, des 1 et des moins 1. Alors ces machines n'existent évidemment pas aujourd'hui. Au lieu d'utiliser l'état de l'art de l'informatique et de la cryptographie, IOTA a décidé de tout réinventer depuis le début, depuis même le hardware, jusqu'à sa propre fonction de hachage. Alors comment on peut s'y attendre d'une bande qui réinvente la roue, et comme on peut s'y attendre quand on invente des choses, la fonction de hachage était complètement foireuse, ce à quoi un des codeurs du projet a répondu « Ouais mais c'était fait exprès, c'était pour pas qu'on nous pique le projet vu qu'on est obligé de le rendre open source. » What the fuck. Le tout de ce projet, du projet IOTA, afin de réaliser le fameux Tangle, qui est une sorte de blockchain multidimensionnelle. Alors, vous le savez, vous avez écouté l'épisode 1, hein, clin d'œil. Le but d'une blockchain est d'arriver à un consensus décentralisé. Le Tangle, lui, il est super parce qu'il est multidimensionnel, mais comme il n'arrive pas à un consensus dans toutes ses dimensions, il y a finalement une autorité centrale, appelée le centralisateur, je déconne pas, ça s'appelle comme ça, qui décide du résultat du consensus. Alors, mais promis, la team IOTA va nous pondre du hardware trinaire avec son propre système d'exploitation, des tout nouveaux paradigmes cryptographiques, et il n'y aura plus besoin de cet centralisateur. Je déconne pas, c'est réellement ce que annonce le projet IOTA. Bref,
Vous avez peut-être déjà rencontré ce genre de personne qui vient vous annoncer que Newton et Einstein ont tort, que la thermodynamique c'est du pipeau, et qu'elle a pondu toute seule en 3 semaines une nouvelle théorie qui permet d'aller plus vite que la lumière, et qu'elle a en même temps construit dans son salon un engin à mouvement perpétuel avec un vieux pot d'échappement, 2 jantes de 2 chevaux et quelques bricoles. Ça fonctionne presque, elle a juste besoin d'un peu de financement pour la terminer. Non, vous avez jamais rencontré ce genre de personne ? Moi bien, d'ailleurs pas plus tard que cette semaine. Je m'égare, je vous raconterai ça après. Mais dans le domaine de la crypto, alors Ripple c'est un peu le gars qui te dit « Ouais, pour plus seulement 50 euros plus de frais de port, je vous envoie ma super méthode pour devenir riche, promis, juré, promis vous allez devenir millionnaire, envoyez-moi juste 50 euros. » Et IOTA c'est le gars qui fait « Ouais, et Einstein, les scientifiques, c'est tous des abrutis, c'est tous des cons, mais j'ai juste besoin d'un financement pour terminer ma machine à mouvement perpétuel qui va foutre l'industrie par terre. » Bref, vous comprenez pourquoi les barbecues sont tellement éprouvants. Note que l'équipe de Proof of Cast accepte néanmoins vos invitations, surtout si vous avez une piscine. Hein. Alors, allez, courage, plus que quelques mois et ce sera la saison des raclettes.
Ah bah enfin, on attend ça avec impatience. Non, personnellement, moi je suis un grand fan de barbecue, donc effectivement j'attends avec impatience aussi toutes vos invitations. Je précise au passage que j'ai déjà eu des remarques de certains de nos auditeurs qui me disent que quand tu dis « je m'égare », c'est dangereux s'ils sont en train d'écouter le podcast en voiture. Parce qu'ils peuvent mal interpréter le truc. Mais là aussi, je m'égare. Donc, merci pour cet édito, parfaitement édifiant et tout à fait passionné comme on t'en sait capable.
Mais c'est, d'ailleurs, moi, je propose que mon nouveau titre officiel sur Proof of Cast soit le titre de chef des gares.
Voilà, tout à fait, chef des gares, ça sonne très bien. J'en profite pour passer à un autre sujet aussi, mais qui va aussi presque... dans le prolongement de tout ce dont on vient de discuter, puisqu'on a discuté aussi des algorithmes de consensus, et je vais répondre à une question qu'on nous a posée sur le blog, que Jérémy Sintes nous a posée sur le blog. Il nous dit « Merci pour ce podcast très instructif, mais avec plaisir, j'ai envie de dire. Vous avez parlé du Proof of Work et du Proof of Stake. Donc effectivement, référez-vous aux épisodes précédents. Pourriez-vous expliquer le fonctionnement du DPoS, donc du Delegated Proof of Stake, ainsi que ses avantages et inconvénients ?
Alors, ce qu'il y a, c'est que je peux peut-être remettre juste une base sur pourquoi est-ce qu'on a le Proof of Stake, quel est le problème ou le Proof of Work. Le problème de base, c'est que on veut éviter qu'une personne prenne le contrôle total du réseau.
C'est ça.
Donc tout simplement, et on n'a aucune. Alors par exemple dans votre démocratie normale, c'est très simple. Vous avez un registre d'état civil avec les gens qui sont là, qui peuvent voter, et vous êtes sûr qu'il n'y a pas une personne qui va faire 1000 votes ou 10 000 votes, enfin normalement, parce qu'il y a une autorité centralisée qui va contrôler. Quand il n'y a pas d'autorité centralisée, comment contrôler que une personne prend pas 1000, 10 000, voire 1 million d'identités dans le réseau pour prendre plus de poids que les autres? Et l'idée de base, c'est un problème très compliqué, très complexe. Et l'idée de base du Bitcoin, la première idée, c'est le Proof of Work, mais le Proof of Work existait déjà avant le Bitcoin, c'est de dire, on va forcer de faire tourner les ordinateurs, de résoudre des problèmes difficiles, parce que là, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez acheter plus d'ordinateurs, mais vous n'allez pas pouvoir multiplier par 1 million. Si par exemple, on vous demande, il y avait une idée de faire du Proof of Work contre le spam, chaque fois que vous envoyez un mail, vous deviez faire un calcul assez compliqué au sujet de votre mail. Ça veut dire que envoyer un mail prenait à votre ordinateur une dizaine de secondes, ça veut dire que ça devenait impossible pour les spammers d'envoyer 1 million d'emails. Donc ça, c'est l'idée derrière le Proof of Work.
Et de toute façon, c'est l'idée générale d'un algorithme de consensus, c'est-à-dire que comme on est dans une logique décentralisée, on ne peut pas s'appuyer sur une autorité centrale pour prendre les décisions, et notamment pour mettre tout le monde d'accord sur, dans le cas du Bitcoin, sur qui a combien et qui a envoyé combien à qui. Mais on doit utiliser un algorithme qui est décentralisé, c'est-à-dire que il distribue en fait cette responsabilité à travers différents nœuds du réseau, et ce de manière aléatoire, imprévisible et très claire, pour que tout le monde puisse facilement reconnaître la version de la réalité sur laquelle on se met d'accord.
Voilà. Et alors, le Proof of Work qu'on vient de l'expliquer, c'est l'ordinateur qui tourne, mais bon, il y a beaucoup de critiques parce que du coup, les ordinateurs chauffent et consomment l'électricité. Donc, voir est-ce qu'il y aurait moyen de faire des alternatives. Et la première qui vient à l'esprit, c'est le Proof of Stake. Et là, ça veut dire qu'au lieu de demander une voix par par puissance de calcul que l'ordinateur peut mettre en place, on va donner, via mais quand même une sorte de loterie, une voix par propriété. Donc si vous avez des Ethereum, si on fait du Proof of Stake sur Ethereum, pour chaque Ether que vous avez, ça vous donne une voix. Alors c'est un peu inégal dans le sens, même complètement inégal, parce que dans le sens que ceux qui ont le plus d'Ether, donc ceux qui sont plus riches, ont plus de poids. Mais vu que l'idée c'est de trouver un consensus et que personne n'a la moitié des Ether, on se dit que ça va s'équilibrer et que les gens vont arriver à se mettre d'accord. Ça c'est l'idée de base derrière le Proof of Stake.
Et aussi que en fait on mitige certains risque en se disant que de toute façon ceux qui ont le plus c'est aussi ceux qui ont le plus intérêt à ce que la valeur de la monnaie soit maintenue et donc à augmenter la confiance dans le réseau puisqu'en gros ils se payent dans la même monnaie que celle dans laquelle ils parient. Donc ça maintient un certain équilibre de ce point de vue-là et ça effectivement c'est la preuve d'enjeu dont on a parlé dans certains épisodes précédents.
Ce qu'il faut juste préciser c'est que ça ne fonctionne pas encore. Le Proof of Work est la seule méthode qui est actuellement s'est révélée praticable dans l'état actuel des recherches qui marche à la fois pour Ethereum et comme pour Bitcoin. Et vu la valeur de ces deux crypto-monnaies, on peut dire que c'est devenu vraiment solide. Donc ça fonctionne, c'est le mining, ça fonctionne et toutes les autres ont des problèmes qui n'ont pas encore été résolus. Pour donner un exemple assez intuitif, le Proof of Stake, imaginez qu'effectivement on donne une voix plus ou moins à ceux qui ont des Ethers, mais que vous décidiez à travers tout un réseau d'hommes de paille, donc on appelle ça une cible attaque, donc des gens qui ont l'air d'être tous différents, mais en fait qui sont tous sous votre contrôle, d'emprunter à un taux défiant taux de concurrence, donc vous demandez à un taux, par exemple, à vous emprunter à du 10%, d'emprunter les Ethers à tous les participants, vous leur dites, je vous emprunte aujourd'hui vos Ethers et je vous rends 110% demain. Et forcément, la plupart des gens vont être d'accord, vont vous les prêter. Et si c'est bien fait, s'ils ne se rendent pas compte qu'en fait, il y a une personne derrière, il y a moyen même de contrôler tous les Ethers, ne fût-ce que pendant quelques minutes suffisantes pour prendre le contrôle du réseau.
Voilà, donc il y a des vecteurs d'attaque effectivement qu'on soupçonne déjà. La difficulté étant que effectivement, comme l'expliquait à l'instant Plum, il y a la plupart des réseaux, enfin en tout cas les plus gros réseaux utilisent de la preuve de travail. Et sur Bitcoin, ça existe même depuis une bonne dizaine d'années. Et il y a plusieurs dizaines de milliards de dollars de valeur d'une certaine manière qui sont garantis par de la preuve de travail. Il y a quelques crypto-monnaies qui fonctionnent déjà avec de la preuve d'enjeu, mais avec des volumes de valeur bien inférieure et donc qui n'attire pas énormément de hackers et donc qui n'expose pas encore beaucoup de risques et tout le défi ça va être de voir comment Ethereum va s'en sortir avec la preuve d'enjeu qu'ils ont prévu de mettre en œuvre d'ici les on va dire un an à deux ans environ, en tout cas c'est les prédictions actuelles. Tout ça pour en arriver à la Delegated Proof of Stake, donc la question de Jérémy, qui nous demande en quoi ça consiste et quels sont les avantages par rapport aux autres algorithmes de consensus. Donc effectivement, on parle bien d'un algorithme de consensus, donc l'objectif est toujours le même, se mettre d'accord sur l'évolution du registre des transactions de manière décentralisée, sans arbitrage, et en tout cas les objectifs avancés par l'inventeur qui s'appelle Daniel Larimer, qui a inventé ça en 2014. Ses objectifs, c'est d'être à la fois plus rapide que de la preuve de travail, d'être aussi moins centralisé, pardon. Alors ça peut paraître un peu ambitieux et contradictoire, mais je vais revenir un petit peu sur ce petit point de détail plus tard, et aussi de consommer moins d'électricité, moins d'énergie que ce que ne consomme aujourd'hui la preuve de travail. Alors, comme je le disais, ça a été inventé en 2014, il y a eu plusieurs implémentations qui ont été déjà mises en œuvre. C'est notamment l'algorithme de consensus qui est utilisé par le réseau Steam, Steemit, pour ceux qui connaissent. Donc c'est une espèce de Reddit ou de Dig, pour ceux qui connaissent encore plus d'avant, où on peut publier des news et les upvoter, les downvoter avec un système de crypto-monnaie derrière. C'est aussi un système qui est utilisé dans Lisk et dans d'autres blockchains comme EOS ou Arc, qui, si mes souvenirs sont bons, sont encore à l'état de prototype et donc n'ont clairement pas validé ce système.
Parce qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, là j'ai critiqué IOTA, mais IOTA, en fait, dès le début, a annoncé qu'ils étaient purement expérimentaux, qu'ils étaient vraiment un projet de recherche. Ils ont atteint une valeur incroyable, donc ça a fait bouger les choses parce qu'il y a beaucoup de valeur, il y a l'intérêt de l'industrie, il y a des gens qui investissent, qui veulent des sous, donc le discours change un peu. Mais au départ, le discours était très clair. Non, non, nous, on veut juste tester une nouvelle méthode d'arriver à un consensus et on ne sait pas si on va y arriver. Et on ne le sait toujours pas. C'est juste que maintenant, il y a des milliards derrière, donc ça devient un peu une démarche différente. Donc, c'est certaines crypto-monnaies, là, comme je le dis par exemple à propos de Ripple, qui sont en fait fondamentalement centralisées, n'ont validé aucune technologie réelle disruptrice. Donc, certaines crypto-monnaies peuvent avoir un succès fou en termes de valeur, de valorisation, mais ça peut être purement spéculatif. Il peut n'y avoir aucune réelle innovation technologique ou succès technologique derrière. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pas parce que vous entendez que, par exemple, EOS a monté en valeur soudainement que ça veut dire que EOS, en fait, a fait un truc génial.
Voilà, il y a beaucoup effectivement de spéculation autour de ça, sans forcément qu'il y ait de justification réelle derrière. Alors, pour le revenir sur le delegated proof of stake, c'est quoi le principe? Eh ben, c'est qu'en fait, une des choses qui ralentit un petit peu le consensus dans la preuve de travail, comme dans la preuve d'enjeu, c'est le fait que n'importe qui peut être validateur, n'importe qui peut être mineur dans le cas de la preuve d'enjeu, de la preuve de travail, ou validateur dans le cas de la preuve d'enjeu, et que donc il faut mettre en place une espèce de compétition d'une certaine manière pour départager un seul vainqueur à chaque instant, qui va encore une fois qui va changer à chaque bloc, mais à chaque instant il faut qu'il n'y en ait qu'un seul qui détermine quelle transaction on ajoute dans le registre. Et cette détermination, elle peut prendre un certain temps, elle nécessite un peu de dans le cas de la preuve de travail, c'est un petit peu de puissance de calcul, et dans le cas de la preuve d'enjeu, c'est tout simplement de diffuser les validations à travers le réseau et de décider par un système de paris qui a remporté la mise. Et dans le cas du delegated proof of stake, ce qu'on fait en fait, c'est que plutôt que tout le monde puisse participer à cette validation, on va élire une petite communauté qu'on va appeler des témoins. Qui vont être responsables d'effectuer cette validation. Alors, le nombre de témoins va varier d'un réseau à un autre. En général, c'est quelques dizaines, de l'ordre de 30 à 100, par exemple. Et ces témoins-là sont élus par la communauté des utilisateurs. Donc, on a un étage intermédiaire, si on veut. On élit une petite caste de témoins. Et l'élection se fait par un vote qui, lui, est proportionnel au stake, c'est-à-dire à la possession de crypto-monnaie de chacun des votants. Donc quelqu'un qui aura par exemple 10 LSK, c'est sur la crypto-monnaie du réseau LISC, qui aura 10 LSK aura deux fois plus de poids dans ce vote, dans cette élection des témoins, que quelqu'un qui n'aura que 5 LSK. Sachant qu'au final, tous ceux qui font partie de ces témoins-là, uniquement ceux qui ont reçu le plus de votes ou le plus de poids de votes ont le droit d'être payés finalement pour rajouter des validations, et ils peuvent par contre être exclus de la validation si on constate qu'ils ont produit des blocs invalides ou qu'ils ont agi à l'encontre des intérêts du réseau à un moment ou à un autre. Donc en fait, on rajoute dans cette logique-là, à la logique de la possession de crypto-monnaie, on rajoute une notion de confiance, puisque d'une certaine manière, un témoin doit rassembler un maximum de confiance pour faire partie de ce collège de validation qui est payé au final. Donc ça a l'air séduisant comme ça, puisque on résout le problème de la vitesse du consensus en minimisant le nombre de validateurs, mais d'un autre côté, on fait ça au prix d'une relative centralisation, dans la mesure où, contrairement au proof of work ou au proof of stake, le système n'est plus trustless, c'est-à-dire qu'on demande d'une certaine manière aux témoins de montrer patte blanche, de prouver qu'ils sont dignes de confiance. Et donc voilà, c'est encore difficile de déterminer dans quelle mesure ça va pas apporter une certaine centralisation. Encore une fois, je dis pas que tous les algorithmes de consensus règlent ce problème, ils le règlent de manière différente et dans certaines limites. Mais voilà, ça c'est une question qui pour moi se pose dans le DPoS. Et il y a une autre question qui est assez notable aussi, c'est que ça implique que tous les utilisateurs en permanence participent à cette élection, participent à ce vote, et donc corrigent éventuellement leur vote si juste qu'ils l'ont mal placé en premier lieu. Et ça implique ça nécessite une implication permanente de tous les utilisateurs, qui à mon sens est une hypothèse un petit peu hasardeuse et audacieuse, dans la mesure où justement la décentralisation implique que le réseau est instable, que les gens partent et reviennent de manière régulière, et que on sait absolument pas prédire la fiabilité en fait des votes. Donc Voilà. En tout cas, c'est une initiative intéressante. Il y a de la recherche qui est menée là-dessus. Il y a un certain nombre de réseaux qui l'utilisent déjà et qui forcément en font une publicité effrénée. Pour équilibrer un petit peu tout ça, je vais vous mettre dans le blog post de cet épisode du Proof of Cast un certain nombre de liens assez intéressants, dont notamment une vidéo d'Andreas Antonopoulos qui en parle un petit peu. Et quand lui en parle, ça fait tout de suite un petit peu sérieux. Il y a aussi Amanda B. Johnson qui a fait une très bonne vidéo là-dessus dans son Daily Decrypt à l'époque, qui est très intéressante. Il y a un article qui simplifie le concept à l'extrême et qui revient un petit peu sur certains des concepts que j'ai expliqués. Et il y a aussi une très bonne explication sur le site de l'ISC, qui au passage a une petite catégorie académie qui repasse sur quelques concepts de la blockchain que j'ai trouvé super intéressante et qui ont informé, parce que honnêtement, j'avais entendu parler du DPoS, mais je m'y étais pas vraiment intéressé jusqu'à présent. Donc merci pour cette question, Jérémy, et j'espère qu'on aura répondu à l'essentiel de tes interrogations. Évidemment, c'est un sujet complexe, donc je vous invite tous à vous y intéresser par vous-même.
Et alors, pour clôturer, je dirais, d'un point de vue académique, donc scientifique, quand on veut, les scientifiques, eux, ils vont dans la théorie, et seulement quand ils ont bien maîtrisé la théorie, on va passer à la pratique. En théorie, il y a encore un débat à savoir s'il y aurait moyen de construire des systèmes qui sont autres que le proof of work. Il y a certains scientifiques qui sont presque sûrs d'avoir démontré que seul le proof of work pourrait vraiment être trustless. Alors d'un autre côté, il faut savoir que d'un point de vue théorique, les scientifiques ne sont toujours pas d'accord de comment ça se fait que Bitcoin fonctionne. Donc la théorie, elle a ses limites. Donc la pratique, c'est très bien aussi. Et la pratique, là, il n'y a qu'une seule manière, c'est de faire quelque chose et puis de voir si ça tient le coup, comme Bitcoin tient le coup aujourd'hui. Donc il faut voir si les délégués de proof of stake, à partir du moment où s'ils montent en valeur, s'ils vont tenir le coup, s'ils vont faire face à des attaques. Et d'une manière générale aussi, de ne pas oublier qu'il y a des solutions qui vont s'appliquer à des problèmes bien particuliers. Donc, quand j'entends ici, on n'a pas toujours besoin d'un algorithme purement trustless. On peut imaginer des tas et des tas de situations où, en fait, on est un groupe de gens où on veut prendre les décisions à plusieurs, mais on sait qu'il y a un groupe de gens qui représentent les autres. Ça peut être dans les consortiums d'entreprises, ça peut être dans des situations de démocratie locale ou des choses comme ça. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des solutions qui ne sont peut-être pas ultimes, mais qui peuvent être très intéressantes dans des marchés de niche. De nouveau, la seule chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que la valeur de la valeur des coins est complètement décorrélée de toutes ces discussions théoriques, de toutes ces applications. La valeur des coins, elle est dans la spéculation, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais donc, si vous croyez vraiment dans un projet, soyez très prudent et n'oubliez pas qu'un projet peut disparaître du jour au lendemain. Et ça, c'est vraiment la chose à retenir. Et c'est pas parce qu'un projet fait de la valeur qu'il a quelque chose à apporter techniquement. Voilà. Et vice-versa.
Tout à fait. Ce qui nous amène très naturellement à couvrir l'actualité, et que puisqu'on parlait de confiance et de d'intérêt de la communauté, la première actualité sur laquelle je voulais revenir cette semaine, c'est celle du débat qui agite en ce moment la communauté Ethereum. Donc je rappelle, Ethereum, c'est cette blockchain générique qui ne fait pas que des transactions financières et monétaires comme Bitcoin est conçu pour le faire, mais qui en fait permet de faire d'exécuter des programmes qu'on appelle les smart contracts, des contrats intelligents sur cette blockchain ouverte. Et alors dans la communauté Ethereum, il y avait déjà eu quelques débats assez houleux par le passé, et là on est en plein j'ai envie de dire en plein débat existentiel autour d'une question. Pour rappel un petit peu de l'historique de ce qui s'est passé, donc en août, enfin à l'été 2017, une des plus grandes de sous-communautés, on va dire, de la communauté Ethereum, qui s'appelle Parity, il y a même une société derrière qui s'appelle Parity Tech, qui développe un wallet en C++ pour le réseau Ethereum. Et qui développe aussi ce qu'on appelle un wallet multi-signature, c'est-à-dire un wallet qui nécessite plusieurs accords, en gros, pour autoriser un transfert. Donc ça, c'est notamment utilisé par des projets d'entreprise ou des projets collectifs dans lesquels on veut éviter que les fonds soient contrôlables uniquement par un seul acteur. Et donc, voilà, c'est assez similaire finalement au virement multi-signature que vous pouvez faire avec votre banque quand vous avez une société. Et donc ce wallet multisignature produit par la société Parity Tech fonctionnait très bien jusqu'à l'été 2017. Et puis ils se sont rendus compte que ça fonctionnait tellement bien qu'en fait à chaque fois que quelqu'un voulait utiliser un tel wallet, il le redéployait, c'est-à-dire il réinstallait une nouvelle instance de ce wallet, de ce contrat intelligent sur la blockchain Ethereum, ce qui était loin d'être complètement efficace, et donc ça gaspillait énormément de ressources. Et donc pour résoudre ce problème-là, ce qu'ils ont fait au final, ça a été de dire, eh ben plutôt que de tout redéployer, on va mettre l'essentiel des fonctionnalités dans une espèce de librairie qu'on va déployer une bonne fois pour toutes, et ensuite quand quelqu'un voudra instancier un nouveau wallet, il pourra instancier un contrat simplifié qui va simplement aller pointer sur cette librairie qu'on aura déjà déployée de manière réutilisable. Et donc ils ont transformé finalement l'ancien code qui était un contrat à usage unique en ce contrat réutilisable qui a été instancié une bonne fois pour toutes. Ils ont fait ça à l'été 2017. Ils ont jugé que les changements de code étaient tellement minimes que ça nécessitait pas de refaire un audit de sécurité, et vous allez vite comprendre en quoi ça a été une erreur monumentale. Et voilà, tout s'est bien passé comme ça et les gens se sont mis à utiliser le nouveau wallet. Bien sûr, en août 2017, quelqu'un a souligné quand même qu'il y avait un petit problème, c'est que en faisant la transformation, on avait oublié un petit morceau qui pouvait potentiellement être dangereux. À savoir que, en gros, quand on instancie un contrat, quand on instancie le wallet, on doit l'initialiser pour désigner un propriétaire de ce wallet. C'est-à-dire quelqu'un qui, en cas ultime, a la possibilité de tuer ce wallet, de le fermer d'une certaine manière. Et donc de récupérer tous les fonds qui sont dedans, et puis tout le monde rentre chez lui et on est content. Sauf que cette fonctionnalité-là, elle était restée dans la librairie. Et il a souligné le problème, l'équipe de Parity a jugé que le problème était plus cosmétique qu'autre chose, que le fixe serait intégré dans une future version du wallet, et tout s'est arrêté là. Jusqu'en novembre, quelques mois plus tard, où quelqu'un qui se présente en tout cas comme étant un noob absolu, c'est-à-dire quelqu'un qui découvre la technologie, se dit tiens, j'ai la possibilité éventuellement de me mettre moi-même comme propriétaire de la librairie que tout le monde utilise, de ce wallet réutilisable. Donc je ne vais pas m'arrêter là, puisque j'ai la possibilité de le faire, je vais le faire. Et puis derrière, puisque je suis propriétaire du wallet, j'ai aussi la possibilité de le détruire, de le fermer. La librairie, réutilisée par tout le monde. Vous sentez arriver la catastrophe ? Il l'a fait. Et juste après l'avoir fait, il a publié un message sur GitHub en disant « Au fait, j'ai fait ça, à votre avis, c'est grave ?» Ce à quoi tout le monde a réagi en courant comme dans tous les sens comme des poulets sans tête sur le pont du Titanic et sans écouter la musique parce qu'ils se sont dit « Mais en fait, là, il y a des millions d'euros qui sont potentiellement bloqués. » Et c'est ce qui s'est passé. En fait, il y avait à peu près 500 000 Ethers pour une valeur qui représentait à l'époque quelques centaines de millions de dollars. Aujourd'hui, on est presque, enfin, vu l'augmentation du coût de l'Ether, c'est même bien plus que ça. Il y avait à peu près 600 wallets qui étaient concernés et qui, du coup, se sont vus avec toujours les fonds dans le wallet, mais rendus inaccessibles, puisqu'en fait, quand on ferme un smart contract, ça veut dire que toutes les fonctions de ce contrat deviennent inopérantes, et en l'occurrence, toutes les fonctions qui permettent de sortir les fonds de ce wallet se sont vues rendues inutiles, et donc les fonds ont été bloqués. Et là, évidemment, toute la communauté a fait un gigantesque facepalm collectif. On s'est dit, comment on a pu laisser passer ça? C'est pas possible. Et pour la petite histoire, évidemment, parmi ces wallets dont les fonds ont été bloqués, eh ben, il y avait des wallets qui appartenaient à Parity Tech, à l'entreprise qui avait créé le contrat à la base. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes acteurs qui ont proposé un EIP. Donc je rappelle, un EIP, c'est un Ethereum Improvement Proposal. Donc c'est une proposition d'amélioration. Ils ont proposé le EIP 999, dont l'objectif est de proposer un hard fork, c'est-à-dire une modification fondamentale des règles de consensus d'Ethereum, dont l'objectif est de libérer les fonds de tous ces wallets affectés, donc d'une certaine manière de revenir encore une fois sur cette notion d'intégrité, d'immutabilité de la blockchain Ethereum.
Donc tout ça rappelle une histoire qui s'est passée
à l'été 2016.
C'était 2016.
Voilà.
Où effectivement qui a conduit avec la, mais c'était comment ça s'appelait cette plateforme
The DAO.
Oui, le DAO. Voilà, le premier DAO qui avait été créé par j'ai oublié son nom, je l'ai rencontré en Suisse,
Stéphane Tuel.
Voilà, Stéphane Tuel, et qui est quelqu'un qui est très charismatique, mais on m'a toujours dit, oui, mais n'est pas quelqu'un qui vérifie tous les détails. Et effectivement, là, il y avait un bug dans le DAO, et or, il y avait des millions qui avaient été investis en Ether, qui avaient été investis, et ça avait conduit à un hard fork d'Ethereum pour essayer de récupérer les fonds. Et aujourd'hui, vous connaissez peut-être Ethereum Classique, qui est un fork d'Ethereum, qui est en fait un fork qui a décidé, oui, mais non, on respecte les règles du code. Voilà. Et donc, on va pas dire que chaque fois qu'on n'est pas d'accord parce qu'on avait un bug qu'on n'avait pas trouvé, on revient en arrière, on fait un hard fork. Ethereum Classique dit, ben voilà, on n'avait qu'à trouver le code et on assume nos responsabilités. C'est une différence majeure. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui illustre le mieux la différence de philosophie entre Bitcoin et Ethereum, c'est que Bitcoin est vraiment un projet très très prudentissime. Chaque changement met parfois des années à arriver parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un accord. Si vous avez entendu Bitcoin Cash, c'est un avant tout un fork pour une histoire de changer la taille de bloc de... On parle ici vraiment de changements minimes dans le code, finalement, pas de fonctionnalité, mais vraiment changer la taille du bloc de données qu'on va mettre dans la blockchain. Y a des discussions énormes dans le Bitcoin, juste pour des choses qui paraissent minimes. Pourquoi ? Parce que la philosophie Bitcoin, c'est y a des milliards derrière, on va jamais faire de changements qui peuvent créer des précédents, qui peuvent faire prendre le doigt dans un engrenage. Ethereum, de l'autre côté, ils ont choisi, on développe beaucoup plus vite, on va beaucoup plus loin, on fait des smart contracts, des choses comme ça. Mais du coup, parfois, on se gourre, on se casse la gueule. Et donc, c'était exactement ce qui s'est passé avec le DAO, c'est exactement ici la proposition, c'est dire, on s'est gourré, on efface tout et on recommence depuis telle date. Alors
sachant que cette fois-ci, il y a quelques différences conceptuelles dans ce qui se passe ici. C'est que dans le cas de DAO, il y avait un attaqueur qui potentiellement pouvait bénéficier de cette attaque. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait 50 millions de dollars en gros qui étaient dans la poche de quelqu'un qui allait se barrer avec la caisse d'une certaine manière. Ici, dans le cas présent, c'est juste des fonds qui vont être brûlés. C'est-à-dire que si on les récupère pas, ils vont être rendus inaccessibles. Donc c'est l'équivalent de brûler du cash d'une certaine manière. Et donc, personne n'en bénéficiera. Il y a juste des gens qui vont perdre beaucoup d'argent.
Et ici, je pense que, de toute façon, vu qu'il s'écoulait beaucoup plus de temps, à l'époque de la DAO, la décision avait dû être très rapide parce qu'il s'agissait de vraiment annuler toutes les transactions depuis la date.
Et puisqu'en plus, il y avait un fail-safe de 30 jours, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'ils avaient 30 jours pour prendre une décision au-delà desquelles la personne pouvait se barrer avec les fonds définitivement parce qu'ils étaient bloqués dans un compte.
Voilà.
Ici, effectivement, ça a pris plus de temps parce que, de toute façon, il n'y a pas d'urgence absolue. Ouais. C'est juste que les fonds sont rendus inaccessibles jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose à propos de ça. Et pour l'instant, le débat est assez mouvementé. Donc, comme je le disais, l'amélioration a été proposée par Parity, il y a un petit conflit d'intérêt quand même, parce que même s'ils sont pas les seuls détenteurs de wallets affectés, ils en font partie et donc, d'une certaine manière, ils proposent une solution pour sauver leur miche. Maintenant, est-ce que ça va convaincre la communauté? C'est très, très compliqué. En tout cas, le débat est assez controversé en ce moment, même parmi les développeurs au sein des différentes communautés, que ce soit la communauté Go Ethereum, donc l'autre implémentation majeure d'Ethereum, ou dans la communauté Parity, il y a beaucoup, beaucoup de débats autour de ça. Des fois, des débats un petit peu passionnés et pas tout à fait rationnels, un petit peu excessifs, donc c'est important de rester constructif dans tous ces débats-là. Mais voilà, il y a toujours des discussions très importantes là-dedans. Alors, je rappelle au passage que, pour le coup, s'il n'y a pas un accord qui est trouvé, s'il n'y a pas un consensus qui se dégage clairement, le risque, c'est d'aller de nouveau vers un autre split, c'est-à-dire un autre hard fork contentieux dans lequel on va avoir deux à nouveau Ethereum qui va se séparer en deux crypto-monnaies. Une où effectivement on va récupérer les fonds et l'autre où on ne va pas les récupérer et ils vont être brûlés. Et le danger avec ça, c'est que évidemment les deux communautés vont s'en retrouver affaiblies puisqu'elles auront moins de membres, donc leurs crypto-monnaies respectives auront moins de valeur. Et donc au final, même s'il y a une des deux sur lesquelles les wallets peuvent récupérer leurs fonds, ils vont récupérer leurs fonds en Ether, mais ce nouvel Ether, d'une certaine manière, aura une valeur plus faible et donc ils vont pas en ressortir complètement sauvés non plus. Donc voilà, c'est assez compliqué comme logique. Mais au final, moi, ce que je trouve intéressant dans l'histoire, déjà, c'est qu'il y a un débat et que ça démontre encore une fois, alors d'une part, la fragilité de Solidity. oui, je sais, le pun intended, hein, la fragilité de Solidity, ce langage qu'on utilise pour développer les smart contracts qui encore une fois est mis en défaut par un bug assez notoire et qu'on aurait dû pouvoir anticiper et détecter beaucoup plus tôt. Ça met aussi en exergue, je trouve, une certaine arrogance de certains développeurs qui ont en l'occurrence fait un changement de code assez rapide, hein. Le changement s'est fait sur quelques semaines sans prendre le soin de faire un audit complet de la sécurité de la chose, et on a vu le résultat. Et même quand on leur a mis le nez dedans en leur signalant le problème, ils ont pas jugé important de le régler tout de suite. Donc là aussi, il y a quelque chose qui pose problème. Je vais mettre au passage en lien le post-mortem, c'est-à-dire le rapport qui a été fait suite à cet incident, de tout ce qui aurait pu être mieux fait et de ce qui va être mieux fait du coup à l'avenir. Donc c'est bien qu'on apprenne de ces erreurs aussi là. Ça met aussi en évidence l'importance qu'accordent beaucoup de membres de la communauté à cette fameuse immutabilité, c'est-à-dire l'intégrité des données sur le long terme, et en même temps la nécessité de temps en temps ou pas d'intervenir dans les règles qui régissent cette immutabilité. Donc là aussi, il y a tout un tas de débats, et au final, c'est un débat de valeur. C'est vraiment un débat de philosophie, un débat presque éthique, qui doit décider de à quoi on donne finalement le plus d'importance. Il y avait d'ailleurs une très bonne conférence à la dernière conférence qui a eu lieu à Toronto. Une développeuse qui s'appelle le Prefi Casiready a bien posé le débat et a expliqué en quoi c'était un débat de valeur et qu'on trouverait certainement pas une seule solution qui satisferait tout le monde, mais que c'était dans ce genre de débat finalement qu'on allait définir l'avenir des blockchains. Donc je vous invite à vous y intéresser parce que c'est vraiment très intéressant, et encore une fois, ne tombons pas dans les débats apocalyptiques et dans les débats passionnés où oui, encore une fois, ça met en danger la vie de mes gosses et tout ça. Il est pas pour moi, la question n'est pas là. Il est vraiment question de se mettre d'accord sur ce à quoi on accorde de l'importance, et au final d'aboutir encore une fois à un consensus, même sur les règles en elles-mêmes. Je rappelle au passage que dans le cas d'Ethereum, comme dans la plupart des blockchains, il y a un consensus sur comment on fait évoluer le registre. Mais par contre, les règles qui régissent comment on fait évoluer le registre, il n'y a pas vraiment de mécanisme de consensus autour de ça, parce qu'on parle de consensus externe.
Mais en fait, justement, ça, là, on rentre vraiment dans mon domaine de recherche. C'est très intéressant parce que ce consensus, en fait, on le trouve déjà au niveau du code avec le code open source. Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec le code open source, eh ben, vous pouvez toujours le forker. Voilà, tout simplement. Le fork vient de là. Donc, il y a une forme de consensus sur le code. Et finalement, les règles, comme tu dis, elles sont les règles de qu'est-ce qu'un bloc acceptable ou pas. Elles sont décidées vraiment par les blocs, par consensus. Donc, le protocole, finalement, il se construit en regardant la blockchain. Donc, comme on dit, si on imagine que les blocs ont des couleurs et qu'on dit qu'on accepte que les blocs rouges, mais qu'à un moment, je dis, mais moi, je suis un nœud de validation, mais j'accepte le bloc bleu, parce que finalement, je vois pas pourquoi je devrais accepter que les rouges. Donc, j'accepte le bloc bleu, mais que d'autres nœuds commencent à penser comme moi. Eh ben, sans s'être concerté, on va accepter un bloc bleu. Et quelqu'un qui lira la blockchain dirait, c'est une blockchain qui accepte les blocs rouges et les blocs bleus. Donc là, on a une évolution du protocole. Contrairement, en fait, justement, on a des systèmes très centralisés qu'on connaît tous. On a des systèmes décentralisés, mais avec un protocole finalement centralisé. On peut penser par exemple à l'email qui a été écrit une fois comme un protocole, et puis après on a un système décentralisé. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait? C'est que les gens qui ont écrit le protocole, ils gardent le pouvoir, soit ils n'ont plus du tout de pouvoir. Et donc, par exemple, l'email, donc vous utilisez l'email que vous lisez tous les jours, c'est MIME 1.0. Le créateur de MIME, les deux créateurs, ils l'ont dit, on a mis MIME 1.0 parce qu'on avait plein d'idées pour les évolutions. Et en fait, maintenant, on sait pas comment les faire accepter. Il faudra toujours accepter que MIME 1.0 sera sans doute la première et la dernière version du protocole de l'email, parce qu'on n'a aucune manière de faire évoluer le protocole. La blockchain, c'est le next step, c'est un protocole qui, en lui-même, qui s'actualise, qui s'évolue.
Voilà, c'est une des évolutions qui est proposée notamment par la blockchain Tezos, qui avait déjà été posé comme réaction à l'incident de The DAO, en tout cas qui est arrivé à point nommé à cette époque-là, et je dirais le débat autour de cette notion de gouvernance interne, il est relancé par ce qui est en train de se passer avec le IP 999. Donc affaire à suivre, on va voir comment tout ça va se développer et que va décider la communauté cette occasion, mais voilà, ça va être assez... Allez, un moment assez important, on va dire, pour l'évolution d'Ethereum. Et au passage, ben oui, ça met un petit peu de côté toutes les autres évolutions qui étaient aussi en cours et qui nécessitent aussi beaucoup de travail, comme le sharding, comme le proof of stake et toutes ces choses-là dont on a déjà parlé précédemment. Donc voilà, ça va être intéressant de regarder comment tout ça se développe.
D'ailleurs, moi, je suis plutôt pro Bitcoin, mais alors la petite pique, c'est que oui, le proof of stake dans Ethereum, c'est pour dans un an ou deux, et ça fait 5 ans. On le dit.
Voilà.
4 ans qu'on le dit.
Sans commentaire. Alors, tout ça nous amène à la deuxième actualité dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui concerne, attention, Facebook. Bah oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Facebook, hein, après tout. Encore eux.
Ah bah oui, bah dans un podcast sur la décentralisation, comment passer à côté de Facebook quand même?
Eh bien justement, détrompe-toi, c'est particulièrement pertinent aujourd'hui, puisque, alors, petit rappel historique là aussi, en début d'année, donc comme vous le savez peut-être, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a cette petite habitude, cette petite marotte personnelle de se fixer des objectifs d'apprentissage chaque année. Donc à chaque fois, en début d'année, il dit, ben voilà, cette année, je vais apprendre, une année c'était je vais apprendre le chinois, une autre année c'est je vais apprendre à faire... de la domotique, et cette année il s'est fixé parmi ses objectifs de développer ses compétences, ses connaissances sur la décentralisation au sens large, pas que sur les blockchains, et notamment essayer de comprendre justement en quoi les blockchains pourraient intervenir d'une manière ou d'une autre dans le business de Facebook.
Il faut savoir que quand même Mark Zuckerberg était beau joueur, a été un des plus gros backers du crowdfunding pour lancer Diaspora, le Facebook open source à l'époque, alors qui a malheureusement été lancé à grand coup publicitaire marketing par une équipe de 3 étudiants. Malheureusement, il y en a un qui s'est suicidé un peu après. Et le projet a été repris comme un projet open source. Il évolue très peu, je trouve, mais il existe toujours. Donc Diaspora existe toujours comme un Facebook open source. Et au départ, Mark Zuckerberg avait fait un don très conséquent pour aider à lancer le projet.
Donc comme quoi, voilà, ça illustre aussi le côté assez intelligent du gaillard. Il n'est pas mono-orienté. Il garde quand même un esprit ouvert malgré les intérêts évidemment conséquents qu'il a dans un certain niveau de centralisation au niveau de Facebook. Hein. Justement, je pense que le débat autour du scandale de Cambridge Analytica souligne bien ça, c'est que au final, oui, bien sûr, Facebook a fait des erreurs dans le fait de donner accès à des informations un petit peu trop facilement, mais d'un autre côté, ils n'auraient pas pu donner accès à ces informations si, en premier lieu, ils les avaient pas centralisées à ce point-là.
Et quoi qu'on en fasse, mais je pense que voilà, c'est le business model qui n'était, à mon avis, pas prévu au départ, que certains appellent, j'aime bien le terme, surveillance capitalisme. Donc, en gros, effectivement, le business model, il est très simple, c'est d'avoir le plus possible de vos données pour vous ficher le plus possible, et ils savent énormément. Alors si vous voulez savoir, c'est qu'ils ont fait des tests avec des questionnaires, et c'est que à partir de, si vous avez mis à partir de, je crois que c'est 10 likes sur Facebook, Facebook vous connaît mieux que vos collègues. À partir de 30 likes, Facebook vous connaît mieux que les membres de votre famille. Et je crois qu'à partir de 300 likes, Facebook vous connaît mieux que vous-même, en fait. C'était sérieux, c'était des choses où les gens répondaient à des questionnaires. On était persuadés, non, mais moi, je préfère ça, ça, ça. Et tout leur historique Facebook disait, non, mais c'est pas vrai. Ça, c'est ce que vous croyez sur vous, mais vous n'agissez pas comme ça. Et donc, à part si vous avez plus de 300 likes, quels que soient les likes sur Facebook, il y a des chances que Facebook vous connaisse mieux que vous-même. Alors, c'est quand même effrayant de autant de pouvoir dans une entreprise.
Voilà, et tout ça, encore une fois, grâce à la centralisation de vos données personnelles.
Et donc là, on peut citer quand même, je cite la petite encart publicitaire pour un projet que j'aime bien, qui s'appelle Ocean Protocol, ou qui part du principe que toutes ces données, en fait, qui sont à la base justement utilisées par l'intelligence artificielle pour nous apprendre, nous connaître, nous profiler, toutes ces données, en fait, sont siloisées. Donc Google a tout plein de données sur nous, Facebook a tout plein de données sur nous, Amazon a tout plein de données sur nous, ils ont des données différentes, mais ils ont leur énorme silo de données, et grâce à ça ils construisent des intelligences artificielles au sommet de tout ça pour mieux tout contrôler. Et l'idée du OCN protocol, c'est de dire non, mais il faut considérer nos données plutôt qu'essayer de se préserver, de les cacher et d'en donner un petit peu au silo, dire qu'il y a des tas de données en fait qui doivent faire partie du bien public et qui doivent être sur une blockchain publique. Et donc toutes ces données qu'on considère ok, c'est là, je veux bien les donner, on les rend publiques pour casser le monopole en fait des données des Facebook et Google. Et donc je trouve que ça, c'est un
C'est une manière de voir, je sais pas si ça va marcher, mais j'aime bien en tout cas de l'art de penser un peu plus loin. Et donc ça s'appelle Ocean Protocol.
Et on mettra le lien bien sûr dans le blog aussi de l'émission. Et donc effectivement, ça fait partie des approches un petit peu alternatives. Et puis bien sûr, on a aussi beaucoup entendu parler, on entend de plus en plus parler du fameux GDPR, qui pour rappel rentre en application le 25 mai prochain, et qui prétend apporter une solution à ces problèmes de centralisation, mais pas en amont, mais plutôt en aval, en disant de toute façon, ils centralisent l'information, mais après on peut légiférer sur ce qu'ils ont le droit de faire avec cette information, dans quelle mesure ils peuvent la garder, pour quels objectifs, selon quelle durée, etc. Donc ça, c'est un petit peu tous les débats qui tournent en ce moment. Et dans ce contexte-là, le 8 mai dernier, on a assisté à quelques changements de poste à la tête de Facebook. Et d'ailleurs, c'est un peu le jeu des chaises musicales, hein, chacun a remplacé tout le monde. Mais il y a notamment un qui a été notable dans le contexte, évidemment, de la blockchain et tout ça. C'est le changement de David Marcus. Alors David Marcus, je rappelle, ancien président de PayPal, pour ceux qui ne le savaient pas, et qui, depuis 4 ans maintenant, s'occupait de toute la division Messenger chez Facebook. Petit résultat sympa, quelques métriques à propos du gaillard, il a fait passer Messenger de 300 millions d'utilisateurs à 1,3 milliard. Donc il a rajouté juste 1 milliard d'utilisateurs à Messenger. Plutôt pas mal en 4 ans. Donc voilà, il a obtenu quelques succès quand même chez Facebook. Et là maintenant, on assiste à un changement de poste puisqu'il passe à la tête d'une nouvelle équipe qui se crée chez Facebook et qui va travailler justement sur, en gros, explorer comment la blockchain peut être utilisée dans les différents métiers de Facebook et peut être, on peut en tirer parti. Alors bien sûr, pas uniquement pour des aspects de crypto-monnaie, etc. Mais voilà, pour tous ces aspects, encore une fois, décentralisés. Alors, le gaillard est brillant et en plus, il s'entoure bien, puisque dans sa petite équipe, on va démarrer avec une équipe de moins de 10 personnes de ce qu'on en sait aujourd'hui. Dans sa petite équipe, on va retrouver l'ancien directeur produit d'Instagram, puisque donc lui aussi change de poste maintenant. Je rappelle qu'Instagram appartient aussi à Facebook. Et on va retrouver aussi l'ancien VP of Engineering, c'est-à-dire directeur de l'ingénierie, de chez Instagram aussi. Donc une petite équipe qui démarre bien, avec quelques gens assez brillants. À noter au passage que David Marcus lui-même a rejoint en décembre 2017 le board le comité de direction de Coinbase, cet échange, cette plateforme d'échange centralisée de crypto-monnaie. Donc il s'y connaît un petit peu là-dedans et il a quelques contacts intéressants dans cet écosystème-là aussi. Donc voilà, c'est intéressant de voir ce changement. Alors déjà, le fait que Facebook crée une équipe blockchain, que ce soit David Marcus qui la préside. Et alors, petite note intéressante, là aussi, je sais pas si je suis moi-même un petit peu parano, si j'ai pas tendance à voir des choses des signes qui n'ont pas lieu d'être, mais dans le communiqué de presse de David Marcus, dans lequel il explique son changement de rôle, le dernier mot, c'est onward. Et si, pour ceux qui auront consulté, comme sur mes conseils, le manifeste cypherpunk de 1993, le dernier mot, c'est onward. Faut-il y voir un signe? Faut-il y voir un présage quelconque? Je vous en laisse juge.
En tout cas, ça bouge pas mal chez Facebook, en tout cas, c'est clair, parce que, par exemple, notamment WhatsApp, qui avait des... Si vous ne le savez pas, mais WhatsApp appartient à Facebook. Alors, WhatsApp est certes chiffré, c'est-à-dire que Facebook ne peut pas voir le contenu de vos messages, mais il n'en a pas besoin parce qu'il a accès à toutes les autres informations. Quand vous avez ouvert l'application, avec qui vous connectez, la taille des messages que vous avez envoyés. Dans la taille, je crois que c'est non pas, mais là, en gros, ils ont pas mal de métadonnées à l'heure à laquelle vous avez envoyé. Et ces données-là, même si elles sont chiffrées, eh ben Facebook veut les exploiter. Facebook veut les rentabiliser, veut les lier à, même si pour le moment, en théorie, c'est pas légal. Moi, j'ai personnellement une expérience où j'ai ouvert WhatsApp par erreur. J'ai ouvert un contact que j'avais plus vu depuis 2 ans et qui j'avais aucun contact. Et dans l'heure, quand je me suis connecté à Facebook, Facebook me l'a suggéré comme ami. Donc, je ne sais pas, évidemment, ça peut être un hasard, mais ça m'a quand même perturbé. Et il faut savoir que les deux fondateurs de WhatsApp, le premier, Brian Acton, a quitté
avait quitté en septembre 2017. Il a quitté WhatsApp pour lancer une fondation, pour relancer la fondation Signal avec Moxie Marlin Spike, qui est créateur de Signal. Donc vraiment dans l'optique de refaire une messagerie vraiment open source, indépendante et complètement chiffrée. Et le dernier créateur, Yann Koum, qui était encore au conseil d'administration, mais il vient de le quitter parce que il est pas d'accord. Il a dit, mais moi j'ai toujours promis à mes utilisateurs que WhatsApp respectait la vie privée des utilisateurs. Ici, Facebook a clairement décidé qu'ils allaient insérer de la publicité dans les statuts WhatsApp et qu'ils allaient essayer d'exploiter au maximum les données et même d'essayer de contourner certaines parties du chiffrement pour pouvoir les exploiter de manière optimale. Et donc là, Yann Koum m'a dit, mais c'est ok, moi ça ne me va plus, je pars. Donc il y a clairement des choses qui bougent dans tous les sens chez Facebook pour le moment.
Ah, c'est évidemment un énorme mastodonte avec beaucoup d'initiatives dans tous les sens, et ça va être intéressant de voir comment tout ça se réconcilie. Alors pour revenir à cette initiative de Facebook autour de la blockchain, moi ce que je vais surtout observer, c'est est-ce qu'ils vont tomber dans ce fameux piège, puisqu'ils ont autant d'intérêt à la centralisation, est-ce qu'ils vont tomber dans ce fameux piège dans lequel tombent de trop nombreuses grandes entreprises de tenter de faire de la blockchain centralisée, ce qui n'a encore une fois d'un point de vue conceptuel absolument aucun sens. Est-ce qu'ils vont tomber dans ce piège-là, ou est-ce qu'à l'inverse, ils vont être une espèce de ils vont nous offrir une démonstration de comment on transforme un modèle économique autour de la décentralisation, ce qui pourrait servir là pour le coup l'industrie et l'écosystème de manière assez marquante.
Et en même temps, c'est vrai que le pouvoir corrompt, même à tous les niveaux. Alors, on l'a encore vu ici dernièrement, même dans la Free Software Foundation. Donc, il y a un bout de code qui est essentiel, mais qui est très technique, qu'on appelle la glibc, où en fait, il y a une fonction qui s'appelle abort pour annuler, tuer un processus. Et il y avait dans le commentaire du code, donc quelque chose qui n'est pas du tout exécuté, il y avait une blague qui faisait référence au fait que aux États-Unis, les femmes n'avaient pas assez d'informations sur l'avortement, on essayait de cacher ça. C'était Richard Stallman qui avait écrit cette blague comme une blague politique pour en faveur de l'avortement, ce qui est très bien, mais les codeurs se sont retrouvés sur cette blague il y a plusieurs années et on s'est dit que ça n'avait plus vraiment lieu d'être et que ça pouvait blesser des gens. On ne savait pas que un codeur pouvait tomber dessus, avoir une mauvaise expérience ou quoi, ça servait strictement à rien. On décidait de le retirer. Alors ça en est en suivi un débat où en fait tous les codeurs étaient d'accord que ça ne servait à rien de conserver cette blague. Ils étaient très diplomates, mais Richard Stallman a dit non, je suis le président, le chef de la Free Software Foundation, j'exerce mon droit de veto, j'exige et j'ordonne que cette blague reste dans le code de la glibc, alors que lui-même n'est plus codeur de la glibc. Alors je sais pas où ça va finir, mais c'est quand même dingue de se dire que la Free Software Foundation, avec des projets libres et tout ça, il y a personne à la tête. Richard Stallman en est venu au point de dire j'exerce mon autorité suprême pour maintenir un bout de code qui est finalement une blague.
Donc voilà. Donc tout ça nous incite à la prudence par rapport à ce mouvement de Facebook et de voir est-ce que ils vont vraiment aller jusqu'au bout de la démarche de la décentralisation ou pas. À noter au passage que le framework produit par Facebook, le framework d'interface utilisateur. Donc là ça intéressera peut-être plus les développeurs, mais ce framework s'appelle React. C'est un des frameworks d'interface utilisateur les plus populaires et il est déjà utilisé de manière assez presque standard par beaucoup de développeurs d'applications Ethereum. Donc à voir est-ce que cette incursion de Facebook dans la blockchain encore plus profonde va nous amener à de meilleurs outils de développement aussi pour les applications décentralisées. Ce serait vraiment très intéressant. Donc voilà, affaire à suivre comme d'habitude. Facebook fait avancer le Schmilblick. Et puisqu'on était en train de parler de Messenger, de WhatsApp et de tout ça, on va terminer notre revue d'actualité par un petit point sur l'ICO de Telegram, puisque donc Telegram, que vous connaissez certainement comme cette application de messagerie cryptée, avait décidé de lancer une ICO, donc une Initial Coin Offering, encore une fois une levée de fonds participative pour développer notamment un nouveau système de paiement qui leur permettrait d'être indépendant finalement des plateformes de paiement, des processeurs de paiement traditionnels que sont Visa, Mastercard et autres. Donc ils veulent développer leur propre crypto-monnaie qu'ils appellent soit le Gram, soit le Ton Coin. Donc c'est plusieurs nuances de quelque chose. Le ton, ça veut dire Telegram Open Network. Et donc voilà, ils ont lancé cette ICO, cette levée de fonds. Et comme très souvent dans le cas de ces ICO, on fait une pré-ICO, c'est-à-dire qu'on permet, avant de permettre à des investisseurs publics de mettre de l'argent dans la levée de fonds, on permet aussi à des investisseurs privés, donc des investisseurs on va dire plus institutionnels, plus agrémentés, de mettre aussi des fonds en commun pour commencer. Et là, cette pré-levée de fonds, cette levée de fonds privée a eu tellement de succès, ils ont levé en l'occurrence 1,7 milliard de dollars, oui, vous avez bien entendu, 1,7 milliard de dollars auprès de moins de 200 investisseurs privés, que finalement ils ont décidé d'annuler la partie publique de l'ICO. Donc on ne pourra pas acheter ces Toncoin en avance. Donc voilà, c'est discutable, mais toujours est-il que ils ont décidé de jouer la prudence, puisque de toute façon ils ont déjà suffisamment levé de fonds avec les investisseurs privés, qui sont donc en l'occurrence ce qu'on appelle des investisseurs accrédités. Aux États-Unis, c'est une définition assez particulière. Ça veut dire qu'ils ont plus de 200 000 dollars de revenus sur les trois dernières années, et qu'ils ont, ou alors qu'ils ont plus d'un million de dollars en patrimoine, ou alors qu'ils ont un rôle de gestionnaire ou de fondateur dans l'initiative en question. Donc voilà, c'est déjà des investisseurs qui ont l'habitude d'investir en gros et qui sont censés être plus informés, plus éduqués que le quidam moyen que nous sommes. Et donc, la partie publique de l'ICO a été tout bonnement et simplement annulée. Au passage, je précise que ici, c'est ce qu'on appelle une ICO d'une crypto-monnaie. C'est pas une ICO token comme la plupart sont. C'est-à-dire que c'est une blockchain à part entière avec sa propre crypto-monnaie et non pas un token créé sur base d'une crypto-monnaie existante comme le sont, encore une fois, la plupart des ICO qui utilisent le protocole ERC-20. Donc, ça veut dire, au passage, que les investisseurs ici qui ont mis donc ce 1,7 milliard de dollars vont devoir attendre que le réseau existe, que la crypto-monnaie existe, pour voir effectivement la valeur qu'ils ont investie et pouvoir la revendre aussi sur des places de marché. En attendant, ça devra se faire uniquement de gré à gré, over the counter comme on dit en anglais, et ça va limiter éventuellement la spéculation là-dessus. Et je pense que c'est là-dessus aussi que Paris Telegram, ça, et aussi éviter certaines enquêtes gênantes de la SEC, donc le gendarme boursier américain, qui a une fâcheuse tendance récemment à passer au crible toutes les ICO un petit peu douteuses, en tout cas celles qui rassemblent beaucoup de fonds, pour y mettre son grain de sel. Et ça, ils essayent de l'éviter, et avec une levée de fonds privée, ils s'en prémunissent dans une certaine mesure. Alors voilà, c'était les derniers développements sur l'ICO de Telegram. Beaucoup d'observateurs externes ont dit que le white paper, donc le livre blanc qui décrit les concepts de ce TON, donc le Telegram Open Network, sont assez vagues. Le white paper fait 132 pages, mais en fait il n'y a pas grand chose dedans. C'est une gigantesque liste au Père Noël où on dit j'aimerais bien que mon réseau fasse ci et ça et ci et ça, sans aucune démonstration que c'est faisable ou même techniquement possible. Donc il y a beaucoup de vent et de vagues autour de ça. Donc de toute façon, ça incite à la prudence, mais voilà, toujours est-il que ça illustre encore une fois l'intérêt croissant que représentent les ICO, et en même temps le danger que ça représente pour tout un monde, toute une industrie de l'investissement et du venture capital, comme on appelle ça, le capital risque. Au passage, je sais pas pour ceux qui suivent la série Silicon Valley, dans le tout dernier épisode, on est le 11 mai, donc dans le dernier épisode à cette date de Silicon Valley, il y a tout un épisode sur une startup qui déciderait peut-être de lever des fonds via une ICO plutôt que via des VCs, avec toutes les luttes de pouvoir qui s'en suivent, les mesures dans un sens ou dans un autre, les avantages, les inconvénients. Je trouve l'épisode assez intelligent, assez bien mené, et donc je vous invite à regarder ça, je trouve ça intéressant.
Et en fait, comme tu l'as dit très bien, ce qu'il faut pas oublier par contre, c'est que si vous n'êtes pas un investisseur aguerri, c'est que une ICO, ça ne veut rien dire. C'est très facile de lancer une ICO. C'est un how-to de quelques lignes. Vous lancez votre propre contrat sur Ethereum en suivant ERC20. C'est très facile. C'est quelques lignes de code. Vous lancez un site, vous annoncez votre projet, vous avez votre ICO et vous annoncez qu'il y a autant de tokens. Vous nous annoncez un prix complètement random et vous pouvez lever des millions comme ça sans même avoir de projet derrière. Ça s'appelle un scam, une arnaque. Mais il y en a beaucoup. C'est très facile. Donc c'est pas parce que le site a l'air bien, c'est pas parce qu'il y a des tokens derrière que ça veut dire quoi que ce soit.
Et là, évidemment, il y a déjà des ICO qui avaient levé quelques centaines de millions de dollars avec des gens que personne ne connaissait, ni d'Eve ni d'Adam. Là, vu que c'est Telegram qui existe déjà avec des fondateurs identifiés, etc., ça a dégagé encore plus de confiance. Et voilà. Alors que, encore une fois, le jury n'a pas encore rendu son verdict, à savoir est-ce que c'est cette confiance est justifiée ou pas. Donc voilà, ça c'était la revue de l'actualité. J'en profite au passage pour vous signaler que j'ai appris juste avant l'enregistrement que les dates de la DevCon, donc la conférence des développeurs Ethereum numéro 4, donc la quatrième édition, ont été annoncées, et l'endroit aussi. C'était un petit peu un mystère jusqu'à présent, puisque chaque année il change de lieu. Et donc cette année ça va se faire du 30 octobre au 2 novembre, et ça va se passer à Prague, en République tchèque. Donc pour une fois, c'est juste à côté de chez nous, en Europe. La dernière, pour rappel, était à Cancun au Mexique, celle d'avant était à Shanghai en Chine, et je crois que c'était uniquement la première qui était à Londres, donc la dernière en Europe. Donc cette année, ça va se faire à Prague. Les billets ne sont pas encore en vente, mais ça va se faire du coup dans les jours et les semaines à venir. Donc pour ceux que ça intéresse, ceux qui sont développeurs et qui voudraient participer à cet événement marquant de la communauté Ethereum, surveillez ça avec attention, parce que ça va être très intéressant, et en tout cas nous on y sera, ça c'est sûr. Je vais terminer cet épisode déjà en demandant à Ploum, tiens, où est-ce qu'on peut te retrouver, quelles sont tes actualités, quels sont tes prochains projets, etc., etc.
Mais on peut me retrouver bien sûr sur ploum.net, à mon blog, que j'espère qui va bientôt subir un lifting, j'espère reprendre, j'écris plus beaucoup pour le moment. Sinon sur Twitter @ploum ou sur Mastodon @ploum@mammoth.fr. On peut me trouver aussi à l'université de Louvain-la-Neuve où je travaille toujours sur la décentralisation et sur la blockchain, et sinon dans plein d'autres projets. Là je viens de rejoindre notamment un think tank suisse qui a pour objectif d'étudier le futur de la démocratie, où la blockchain évidemment a potentiellement un gros impact. Donc c'est tous des projets qui me tiennent à cœur, et je rejoins aussi des groupements des think tanks, des groupements de réflexion du Parlement européen tout autour de la blockchain, des nouvelles technologies. Mais le plus facile, ça reste quand même de me trouver soit sur Twitter, soit sur Mastodon, si vous voulez avoir du truc, me contacter journalièrement. Et sinon, mais le mail, c'est la manière la plus sûre de vous m'envoyer un mail. C'est très facile de trouver mon adresse. Et
voilà, on vous laisse chercher, c'est pour le mystère.
Voilà.
Et pour le think tank, est-ce qu'il y a déjà un site internet où on peut déjà se renseigner dessus?
Non, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, ils sont quand même vachement, vachement balèzes au niveau crypto. Donc ici, c'est a été lancé à Zurich. Alors pour la petite anecdote, c'est quand même sympa. C'est une société qui s'appelle Procivis, avec laquelle je suis en contact depuis maintenant plus d'un an, qui lance une solution de départ de vote et d'identité numérique pour la Suisse, pour les services suisses, mais sur la blockchain. Et ils ont décidé de lancer ce think tank, et ils ont lancé aussi un espace de coworking pour les startups liées à la blockchain. Donc vraiment un espace et un incubateur de projets de blockchain et tout ça. Et ils l'ont lancé au centre de Zurich, dans un bâtiment qui a toujours appartenu à une banque. Ça coûte une fortune, mais comme le bâtiment en fait doit être complètement rénové dans 2 ans, les propriétaires n'arrivaient pas à trouver un locataire qui voulait bien rester que 2 ans. Et donc ils ont eu un bon prix sur le. Ils ont ce bâtiment qui donne littéralement en face. J'en reviens, j'y étais la semaine passée. J'y étais à 2 semaines. Qui donne sur la Banque nationale suisse.
C'est un joli pied de nez, je trouve.
Et le président de la Banque nationale suisse, ça s'appelle pas la Banque nationale. Je sais plus comment elle s'appelle, mais était là justement à l'inauguration, et il a dit ouais, mais ce qui est bien, c'est que maintenant que vous êtes là, on va pouvoir savoir s'il y a des innovations qui se font dans le domaine bancaire qui risquent de nous faire bouger, de nous concurrencer. Et pour ça, c'est très simple, on n'aura qu'à regarder par la fenêtre, et si la lumière est allumée, c'est qu'il y a des innovations qui vont nous concurrencer, qui vont sortir bientôt.
Ah, le pragmatisme suisse. Ouais. Donc, En ce qui me concerne, vous pouvez me retrouver bien sûr sur Twitter, srbogast, et bien sûr Chainskills. Vous retrouvez le blog de Chainskills où on continue à publier régulièrement des infos, et vous pouvez suivre aussi les réseaux sociaux de Chainskills, en plus de ceux de Proof of Cast, parce qu'après après tout, il y en a des pages Facebook et des comptes Twitter de partout. On en a tout le tour du ventre. Et j'en profite aussi pour rappeler que pour ceux qui sont développeurs et qui s'intéressent à Ethereum et au développement de smart contracts, on a un cours sur Udemy pour lequel on vous a créé pour vous, juste pour vous, parce que ça nous fait plaisir, chers auditeurs du Proof of Cast, on vous a créé un petit code promo qui vous permet d'avoir le cours intégralement pour 10€, et le lien avec ce code là sera bien sûr sur le blog post. J'en profite au passage pour signaler que je cherche une dizaine de volontaires qui n'ont pas d'expérience préalable en développement, et éventuellement même qui n'y connaissent rien en blockchain, mais simplement qui aimeraient mieux comprendre ce que c'est qu'une blockchain, parce qu'on est en train de préparer un nouveau cours en ligne pour les non-développeurs justement, et on aimerait bien tester un petit peu du contenu qu'on a déjà mis en ligne sur le cours existant. Et donc en fait, ces 10 volontaires qui pourraient être intéressés, je leur ferai un code gratuit pour accéder au cours, et ce qu'on aura besoin en échange, c'est simplement qu'ils nous donnent du feedback et qu'ils nous posent des questions sur la première partie du cours, celle un peu plus théorique sur la blockchain à proprement parler, pour savoir si ce contenu est déjà suffisamment digeste même pour des néophytes. Donc si ça vous intéresse, l'adresse email à laquelle vous pouvez me contacter sera dans le blog post, et je vous invite à me contacter. Ce qui nous amène tout doucement à la fin de cet épisode, finalement assez long, hein, on est au-delà d'une heure déjà, du Proof of Cast numéro 4. Prochain épisode le 26 mai prochain. Je remercie Plum d'avoir participé à cet épisode.
Mais c'est toujours un plaisir.
Voilà. Et je vous remercie à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, hein, les commentaires, les reviews sur les plateformes de podcast et tout ça, et tout ça.
Ouais, regarde, il y en a deux qui dorment pas là, qui écoutent encore.
Oh, ça c'est une chance. Alors, c'est le moment d'aller commenter, d'aller reviewer. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. Merci Plume. Et à bientôt.
Merci Seb. À la prochaine.